France Culture.
Le journal est signé Julie Paco. Bonsoir Julie.
Bonsoir Quentin, bonsoir à tous. On l'a eu, les autorités américaines confirment l'arrestation du tueur présumé de Charlie Kirk ce soir, l'influenceur conservateur tué par balle lors d'un débat mercredi. Le suspect aurait été dénoncé par un proche. L'Union européenne recule sur un totem environnemental sous pression des constructeurs automobiles. La Commission européenne va réexaminer le plus tôt possible l'interdiction des véhicules thermiques prévue en 2035. Elle réexamine la note souveraine de la France. L'agence de notation Fitch dira ce soir si elle abaisse ou non la note française. Faut-il véritablement s'en inquiéter ? Réponse dans ce journal. Deux semaines après la rentrée scolaire, il manque au moins un enseignant dans 60% des collèges et des lycées, alerte le SNPDEN, le principal syndicat des chefs d'établissement, qui constate les effets immédiats des économies budgétaires. Enfin, on parlera de produits présentés comme des traitements miracles contre l'obésité, dont les réseaux sociaux font abondamment la pub. L'agence de sécurité du médicament saisit la justice. Après plus de 30 heures donc de chasse à l'homme à travers les États-Unis, l'auteur présumé de l'assassinat de Charlie Kirk a été arrêté, annonce faite par Donald Trump sur la chaîne de télévision Fox News, avant d'être confirmé par les autorités américaines lors d'une conférence de presse. Près de deux jours donc après l'assassinat de l'influenceur conservateur de 31 ans, porte-drapeau de la jeunesse trumpiste, abattu lors d'un débat public sur un campus de l'Utah. Les précisions aux États-Unis d'Isabelle Labéry.
Il s'appelle Taylor Robinson, il a 22 ans et réside dans l'Utah, mais n'était pas étudiant à l'université où s'est produit le drame. Arrêté à 22h hier, il se serait rendu sans résistance après avoir avoué son crime à un proche, à son père, selon Donald Trump. D'après les premiers éléments de l'enquête, Taylor Robinson voit une haine farouche à Charlie Kirk. Quelques jours avant son intervention prévue à l'université, le sujet est venu dans la conversation lors d'un dîner familial. Le jeune homme s'est alors montré plein de colère et d'hostilité contre les positions ultra-conservatrices de l'influenceur. Des inscriptions ont par ailleurs été retrouvées sur ses douilles non utilisées. L'une d'entre elles dit « Eh fasciste, attrape !» avec un point d'exclamation. Une autre cite le refrain de Bella Ciao en référence à la chanson antifasciste italienne. Et sur une autre, il y a « Si tu lis ceci, tu es gay ». Le directeur du FBI s'est dit très fier d'avoir pu résoudre en moins de 33 heures une affaire qui a secoué tout le pays. Un drame qui, selon le gouverneur de l'Utah, est même un tournant dans l'histoire politique américaine.
Isabelle Labéry pour France Culture. C'est une déclaration présentée par Paris comme le socle du sommet de l'ONU du 22 septembre prochain, au cours duquel Emmanuel Macron a promis de reconnaître l'État palestinien. La déclaration de New York a été approuvée aujourd'hui par une large majorité à l'Assemblée générale de l'ONU, 142 voix pour. 10 contre, dont Israël et les États-Unis. Ce texte porté par la France et l'Arabie Saoudite relance la solution à deux États, israélien et palestinien, mais tout en condamnant explicitement le Hamas et les attaques du 7 octobre. Un Hamas qui doit cesser d'exercer son autorité sur la bande de Gaza et remettre ses armes à l'autorité palestinienne, est-il encore écrit. Emmanuel Macron salue ce soir ce vote, y voyant l'étape d'un chemin irréversible vers la paix. Et ce, alors que Benjamin Netanyahou a réaffirmé hier qu'il n'y aura pas d'État palestinien. Le Premier ministre israélien a réitéré cette promesse lors d'une cérémonie de signature d'un vaste projet de colonisation en Cisjordanie occupée, projet qui morcellera un peu plus le territoire palestinien. Mise sous pression par les constructeurs automobiles, lui réclamant de freiner le passage au tout électrique, eh bien la Commission européenne promet ce soir de réexaminer au plus tôt l'interdiction des véhicules thermiques en 2035. Annonce faite à l'issue d'une réunion entre la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, et les dirigeants de l'industrie automobile à Bruxelles. Vous vous trouvez, Pierre Benazet, face aux difficultés que rencontre le secteur, eh bien la réunion a débouché sur une promesse de la Commission d'accélérer la révision de l'objectif 2035.
Nous allons réexaminer l'objectif 2035, je cite, le plus tôt possible, c'est ce qu'affirme la Commission européenne. C'est une importante concession faite aux constructeurs parce qu'une partie d'entre eux espérait voir la date repoussée depuis les déclarations du chancelier allemand Friedrich Merz à l'ouverture du salon de Munich en faveur, je cite, d'une réglementation européenne intelligente, fiable et souple. Dans le même parti conservateur allemand, la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, avait elle aussi envoyé des signaux en ce sens lors de son discours sur l'état de l'Union mercredi à Strasbourg. Elle affirmait envisager de réviser les objectifs du Pacte vert européen pour les véhicules hybrides et à faible taux d'émission. En revanche, d'autres constructeurs demandent le maintien des objectifs parce que les investissements ont déjà été planifiés, voire engagés. Et d'ailleurs, Personne à la Commission ne préconise de repousser l'échéance 2035 pour la fin des moteurs thermiques. La Commission propose même d'accélérer l'électrification de la flotte des véhicules de société. Ce n'est en aucun cas un renoncement à la date butoir, précise la Commission. Une révision était déjà prévue pour 2026. Elle sera simplement avancée. Elle pourrait par exemple déboucher sur un assouplissement ou un étalement des paliers intermédiaires ou des amendes, des flexibilités sur les types de moteurs concernés.
Pierre Benazé, depuis Bruxelles, où l'OTAN annonce par ailleurs ce soir la mise en place d'une opération Sentinelle orientale afin de renforcer la défense de son flanc Est. Annonce faite par le secrétaire général de l'Alliance Atlantique, Mark Rutte, après l'intrusion de drones russes en Pologne dans la nuit de mardi à mercredi. Au lendemain de sa condamnation à 27 ans de prison pour tentative de coup d'État par la Cour suprême brésilienne, l'ancien président brésilien d'extrême droite, Jair Bolsonaro, peut toujours compter sur le soutien d'effectifs de Donald Trump et de son administration. Les États-Unis promettant de répondre en conséquence face à cette condamnation qualifiée d'injuste, d'après les mots du secrétaire d'État américain Marco Rubio. Et face à ce soutien, eh bien, le gouvernement de l'actuel président Lula marche sur des œufs et hésite à apporter une réponse diplomatique. Jean-Mathieu Albertini.
Face à ce verdict sévère, le camp bolsonariste compte sur Donald Trump pour revenir sur cette condamnation. Déjà exilé sur place pour encourager le gouvernement des États-Unis à prendre des sanctions, Eduardo, l'un des fils de Bolsonaro, a hier suggéré d'aller plus loin.
Au Brésil, l'intervention de F-35 et de navires de guerre pourrait être nécessaire à l'avenir. La porte-parole de la Maison-Blanche l'a évoqué et elle a eu raison. Si les autorités brésiliennes ont un minimum de jugeote, elles devraient faire très attention à ce discours.
Si ces provocations ont été ignorées par le gouvernement, Lula a hier répondu au président américain.
C'est arrogant de sa part de vouloir que la justice brésilienne ne juge pas quelqu'un qui a commis un crime selon les critères de la justice brésilienne. Un président d'un pays ne peut interférer dans les décisions souveraines d'un autre pays. S'il veut prendre d'autres sanctions, c'est son problème. On saura réagir.
Le ton est ferme contre l'administration trumpiste, ce qui offre un regain de popularité à Lula. Par contre, c'est le silence radio sur la condamnation de Jair Bolsonaro. Au palais présidentiel, on veut éviter de jeter de l'huile sur le feu alors que l'opposition essaye par tous les moyens de faire passer une loi visant à amnistier l'ex-président.
Jean-Mathieu Albertini, correspondant de France Culture à Brasilia. La note de la France sera-t-elle dégradée? L'agence de notation Fitch doit décider ce soir si elle abaisse ou non la note de la France de AA- à A+, alors que la dette publique est au cœur du débat politique depuis des semaines. Cette évaluation peut avoir des conséquences sur la capacité de la France à emprunter sur les marchés. Bonsoir Camille Magnard.
Bonsoir Julie.
Ces revues des agences de notation sont comme à l'accoutumée très scrutées. Les marchés financiers retiennent d'autant plus leur souffle cette année. Mais faut-il véritablement s'inquiéter d'une rétrogradation ?
Alors écoutez, selon les analystes que j'ai pu consulter, pas vraiment de cataclysme en vue, hein, quoi qu'il arrive vers 22h ce soir quand on va recevoir le communiqué fatidique de l'agence Fitch. La France ne devrait pas se retrouver d'un coup face à une flambée des taux de rendement qui lui sont exigés par ses créanciers. Bien sûr, il y a une inquiétude des marchés quant à l'ampleur de la dette française, aux difficultés politiques surtout, à fixer un cap clair pour s'en sortir. Mais ces craintes-là, finalement, elles ne sont pas nouvelles et elles se répercutent déjà sur les taux pratiqués. On l'a vu mardi, hein, quand la France a emprunté pour la première fois un taux équivalent à celui de l'Italie qui est noté triple B, soit 5 échelons plus bas. Si la note française devait être dégradée ce soir par Fitch, ce serait une sorte de rééquilibrage assez logique par rapport aux économies européennes voisines, mais l'impact réel devrait être marginal.
Et Camille, il suffit pour s'en convaincre de voir quels effets avaient produit les précédentes dégradations de la note française par les agences de notation.
Oui, ou même prendre l'exemple des États-Unis en 2011 qui ont perdu leur triple A, leur 20 sur 20, mais leur taux souverain pourtant a continué à baisser pendant presque une décennie ensuite. Et c'est vrai aussi en France, en avril 2023, quand Fitch a dégradé notre note pour la dernière fois, eh bien les taux de rendement et le spread, la différence avec les taux allemands, sont restés globalement stables. En fait, pour l'économiste Sylvain Bersinger, fondateur du cabinet Bersinger Co, les agences de notation ne font plus la pluie et le beau temps.
En fait, tous les investisseurs, les banques, les fonds d'investissement, les fonds de pension et autres, réalisent à peu près les mêmes analyses que les agences de notation. Ils ont à peu près les mêmes économistes qui travaillent de la même façon. Donc, quand une agence prend une décision, ben, en fait, ce qu'elle dit, tout le monde le savait déjà plus ou moins. Donc, je trouve que souvent, les agences, elles arrivent, disons, un petit peu après la bataille, un petit peu pour confirmer des tendances que tout le monde avait déjà notées et qui s'étaient déjà traduites par des évolutions de taux d'intérêt.
Et ça nous ramène à ce qu'on disait tout à l'heure sur les taux plus élevés auxquels la France a pu emprunter cette semaine. Ce soir, Fitch dégradera peut-être la note française, mais il y a peu de chances que ça surprenne beaucoup les marchés financiers.
Camille Magnard, de la dette, mais pas des retraites. C'est ce dont il a été question aujourd'hui à Matignon, où le nouveau Premier ministre a entamé une série de rendez-vous avec les partenaires sociaux. La CFDT a ouvert le bal aujourd'hui, et au sortir de cette réunion, eh bien, sa secrétaire générale, Marie-Lise Léon, a salué un entretien extrêmement franc avec le Premier ministre à l'écoute. Et si Sébastien Lecornu n'a pas donné de position sur le sujet des retraites, dit-elle, il n'a pas démenti des travaux sur la taxation des hauts revenus, a expliqué Marie-Lise Léon, qui a rappelé que la CFDT était plus que jamais motivée pour aller dans la rue le 18 septembre prochain, à l'occasion de la journée de mobilisation nationale des organisations syndicales, sans celle des contrôleurs aériens. Le premier syndicat de la profession a décidé ce soir de reporter sa grève, faute d'interlocuteur au gouvernement. Et dans ce contexte politique incertain, où l'actuel ministre de l'Éducation nationale ne sait pas encore si elle sera reconduite dans ses fonctions, le SNPDEN, le principal syndicat des chefs d'établissement, tenait ce matin sa conférence de presse de rentrée, deux semaines après la reprise des cours. Enquête à l'appui, le syndicat alerte les économies à l'œuvre dans l'Éducation nationale et la réduction de nombreuses dotations scolaires ont un effet immédiat sur la rentrée et sur les conditions de travail qui se dégradent aussi bien pour les élèves que pour les enseignants. Hakim Kasmi.
Une rentrée marquée par un manque de moyens humains tout d'abord, puisque selon le SNPDEN, il manque au moins un enseignant dans 60% des collèges et des lycées, un chiffre encore plus important en filière professionnelle. Un manque de moyens financiers aussi, puisque le ministère n'a pas attendu le prochain budget pour commencer à effectuer des coupes, comme par exemple pour le pacte qui permet de financer les remplacements de courte durée ou bien l'aide aux devoirs, ce qui a des conséquences financières pour les enseignants, mais aussi pédagogiques pour les élèves, comme nous l'explique Bruno Bobkiewicz, secrétaire général du SNPDEN, qui est aussi le proviseur du lycée Buffon à Paris.
C'est les heures supplémentaires qu'on attribue aux établissements, c'est les indemnités diverses, c'est le pacte qui a baissé et c'est depuis hier et aujourd'hui l'enveloppe du pass culture qui arrive dans les établissements et qui ont très largement baissé, malheureusement comme on pouvait s'y attendre. Donc tout ça va dans le même sens, hein, la réduction des moyens et des marges d'autonomie attribuées aux établissements qui vont nous empêcher de financer des projets, des sorties ou des actions de type soutien scolaire par exemple, et c'est évidemment fort regrettable.
Enfin, l'enquête nous révèle que seul un collège sur 10 applique vraiment l'interdiction des téléphones portables, comme le souhaitait Elisabeth Borne, avec les mises en place de casiers ou de pochettes, un choix qu'assument les chefs d'établissement, qui rappellent à la ministre de ne pas avoir les moyens pour mettre en place une telle mesure, et qui nous précise aussi que de manière générale, les élèves respectent plutôt bien la règle.
Les aides publiques dont la diminution se répercute aussi directement sur l'apprentissage. L'INSEE prévoit ainsi la destruction de 65 000 postes d'alternants en 6 mois. Et ce, alors que le président de la République promettait pourtant, lors de sa dernière campagne, 1 million de nouveaux apprentis par an. Bonsoir, Jeanne Serrin.
Bonsoir.
Après des années fastes, donc pour les entreprises et le recrutement de jeunes en contrat d'apprentissage, la réduction des aides à l'embauche annoncée par le gouvernement et entrée en vigueur le 1er juillet dernier commence à produire ses effets, Jeanne.
Oui, en cette rentrée 2025, difficile pour les apprentis de trouver leur point de chute, constate France Université et sa vice-présidente Hélène Boulanger, qui observe surtout que les entreprises ont du mal à s'engager dans la durée.
C'est la difficulté de s'engager dans un système qui n'arrête pas de changer. Il y a le sujet de la baisse des aides et du soutien à l'apprentissage, d'une part, mais il y a le sujet aussi de la variabilité de ces dispositifs d'aide. Quand ils changent trop souvent, on engage en fait les entreprises à avoir une posture davantage prudente, c'est-à-dire à limiter les engagements sur du pluriannuel.
La dernière réforme priorise désormais le versement des aides aux formations sur les premiers niveaux de qualification, niveau bac et BTS, un recentrage nécessaire après des dérives, mais qui va pénaliser des étudiants, regrette Baptiste Martin, président de l'Association des apprentis de France.
il y a quand même des jeunes du supérieur qui légitimement pourraient en bénéficier et de devoir malheureusement être mis plus en concurrence faute d'offres d'alternance, ça va laisser des jeunes sur le carreau et c'est quelque chose qui est difficile à intégrer.
Et cette baisse des contrats d'apprentissage n'épargne aucune filière d'après l'INSEE, ce que regrette Emmanuel Duflo, le président de la conférence des directeurs des écoles françaises d'ingénieurs.
C'est un facteur pour nous pour réussir à augmenter le nombre d'ingénieurs diplômés à un moment donné où la France manque d'ingénieurs et donc on est véritablement sur un mauvais signal, sur un mauvais calcul par rapport à ce besoin et ce besoin de développement de l'industrie et de l'économie.
L'année dernière, 50 000 jeunes en formation n'avaient pas trouvé d'alternance. Les chiffres pour cette année seront connus dans les prochains mois.
Explication de Jeanne Serrin. 4 mois après le meurtre d'Agathe Hilleré, adepte du trail dont le corps avait été retrouvé en mai dernier dans la Vienne, un homme a été mis en examen aujourd'hui pour enlèvement et séquestration. Soupçonné d'avoir enlevé et tué cette femme de 28 ans disparue dans le secteur de Vivonne, près de Poitiers, où elle était partie faire un footing. Un homme de 59 ans, condamné par le passé pour viol et pourtant surveillé par la justice. Et Mathilde Lemaire, il a reconnu peu à peu son implication.
Oui, ouvrier agricole de 59 ans qui habitait Vivonne. Il a reconnu devant le juge ce matin avoir porté 2 coups à la jeune Agathe Hilleré, sans arme et sans intention de lui donner la mort, précise son avocat que nous avons joint. Plutôt face au gendarme qui l'interrogeait sur la présence de traces d'ADN de la victime dans sa voiture, le quinquagénaire avait été contraint de reconnaître qu'il avait été sur les lieux de la disparition de la jeune femme. Un homme au très lourd passé judiciaire, 2 mentions à son casier et non des moindres, condamné en 94 par la cour d'assises du Puy-de-Dôme, 12 ans de réclusion pour viol sous la menace d'une arme et en 2004, après récidive, donc condamné par la cour d'assises de la Haute-Loire à 30 ans de réclusion, là, avec une peine de sûreté de 20 ans pour exactement donc les mêmes faits. Depuis l'an passé, l'homme avait vu sa peine aménagée, il était sorti de détention, placé sous surveillance judiciaire avec des restrictions de déplacement, des interdictions comme celle de porter une arme, une injonction de soins aussi. Son passé lui valait d'être inscrit au fichier des auteurs d'infractions sexuelles, ce qui a mis, entre autres éléments, les gendarmes sur sa piste.
Mathilde Lemaire, service police-justice de France Info. Et si la surveillance judiciaire n'empêche donc pas les condamnés de récidiver, les plaintes ne suffisent pas pour être protégées. La police des polices, l'IGPN, a ainsi été saisie hier par une magistrate de Poitiers après le féminicide d'une femme de 25 ans poignardée par son ex-compagnon le 8 septembre dernier. Elle avait porté plainte le 10 juillet et s'était rendue à 4 autres reprises au commissariat durant l'été pour dénoncer le harcèlement et les violences subies par cet homme. Il s'appelle Ozempic ou Wegovy et sont présentés sur les réseaux sociaux comme des produits miracles contre l'obésité. L'agence du médicament alerte sur la vente illégale de ces médicaments en ligne qui sont uniquement disponibles sur prescription en France. L'agence sanitaire qui a saisi le procureur de la République. Bonsoir, merci Anne-Edith.
Bonsoir.
L'agence veut imposer à une dizaine de plateformes de mettre fin à la vente et à la publicité de ces traitements.
Se procurer des médicaments amincissants hors pharmacie, c'est jouer avec sa santé. Philippe Besset, le président de la Fédération des syndicats pharmaceutiques de France, ne cache pas son inquiétude.
La plupart du temps, les gens qui font ce business frauduleux, ils ne s'embêtent pas, ils ne mettent pas du poison, ils mettent juste de la farine, ils mettent juste des poudres inertes. C'est ce qu'ils veulent, eux, c'est récupérer de l'argent. Ce n'est pas forcément faire du mal. Mais il y a quand même un risque qu'une malveillance envoie des produits qui seront toxiques pour vous. Donc, c'est sûr que il ne faut pas le faire. En fait, l'achat de médicaments est réservé donc aux officines de pharmacie pour des raisons de sécurité, pour être sûr de la traçabilité du produit et que le produit est vraiment le produit qu'on prétend vous vendre.
Même quand c'est le cas, les patients qui prennent ces traitements doivent être absolument suivis par des médecins. La maladie nécessite une prise en charge à vie, explique François Patou, chirurgien au CHU de Lille et spécialiste de l'obésité.
Quand on la traite efficacement, c'est pas simplement avec quelques semaines d'un médicament, c'est une prise en charge globale avec une équipe qui est capable de peser les indications de ce médicament, d'en estimer les risques d'effets secondaires et puis d'accompagner le patient lors de son traitement, mais aussi en l'accompagnant avec les autres facettes de ce traitement qui doit être pluridisciplinaire. Il y a des aspects diététiques, des aspects psychologiques. L'obésité est une pathologie holistique, elle frappe l'ensemble de la personne et il faut donc pouvoir suivre l'ensemble de ces éléments en même temps qu'on donne un médicament biologique. Efficace.
En pharmacie, ces médicaments sont uniquement délivrés sur prescription et proposés sous la forme de stylos injecteurs. En ligne, les produits illégaux sont vendus en patch notamment.
Merci à Nezic pour France Culture. Le groupe CMA-CGM et son propriétaire Rodolphe Saadé renforcent un peu plus sa mainmise sur les médias. Il rachète le média en ligne Brut, dont il était déjà actionnaire. Avec cette opération finalisée aujourd'hui, sa filiale CMA Média devient un acteur incontournable du paysage médiatique français, s'est réjoui le groupe dans un communiqué. CMA Média ayant déjà racheté BFM TV et RMC il y a un an, elle représente aujourd'hui la deuxième plus grande rédaction de France et la première du secteur privé avec 1600 journalistes. La météo avec un temps maussade et de la pluie attendue demain sur de nombreuses régions. Le Var est ainsi placé en vigilance orange, pluie, inondation dès la fin de la matinée et dès le milieu de la nuit prochaine en ce qui concerne le Pas-de-Calais. Ces ondées seront orageuses du Cotentin aux Flandres demain matin, puis sur l'ensemble de la moitié nord demain après-midi, à l'exception de la Bretagne. Plus au sud, eh bien, le ciel restera couvert. Les températures minimales sont comprises entre 11 et 19 degrés au réveil. Quant aux minimales, elles affichent 18 à 28 degrés sur les plages corses. C'est la fin de ce journal, préparé ce soir avec Jean-François Braun et Élise Leu à la technique.